Mark Twain, Enfer ou paradis? Vous avez menti? Hein, vous avouez maintenant que vous avez menti. La famille se composait de 4 personnes. Marguerite Lester, une veuve de 36 ans, Hélène Lester, sa fille âgée de 16 ans, et les tantes de Madame Lester, Anna Esther Gray, vieille fille jumelle, âgée de 67 ans. Jour et nuit, les 3 femmes passaient leur temps à adorer la jeune fille, à suivre dans le miroir de son visage le développement de son doux esprit, à se rafraîchir l'âme devant l'épanouissement de sa beauté, à écouter la musique de sa voix, à penser avec reconnaissance que leur vie était belle et joyeuse à cause de sa seule présence, à frissonner à la pensée de la triste solitude de ce monde si ce rayon de soleil leur était enlevé. Par nature et intérieurement, les tantes étaient parfaitement aimables et bonnes. Mais en matière de morale et de bonne conduite, leur éducation avait été si inflexiblement stricte que leur apparence extérieure en était devenue austère, pour ne pas dire rébarbative. Leur influence était puissante dans la maison, si puissante que la mère et la fille se conformaient gaiement, mais inconsciemment et infailliblement, à leurs exigences morales et religieuses. Cette façon d'agir était devenue pour elle une seconde nature. Par conséquent, il n'y avait dans ce paradis tranquille ni querelle, ni irritation, ni trouble, ni sarcasme. Un mensonge n'y trouvait pas place. Les paroles y étaient toujours conformes à la vérité absolue, à une vérité rigide, implacable, inflexible, quelles que puissent en être les conséquences. Mais un jour, dans un cas embarrassant, l'enfant chéri de la maison souilla ses lèvres d'un mensonge et le confessa avec des pleurs de contrition. Il n'existe pas de mots capables d'exprimer la consternation des tantes. Oh, ce fut comme si le ciel s'effondrait et si la terre s'écroulait en un formidable chaos. Elles demeurèrent assises, l'une à côté de l'autre, pâles et sévères, muettes et interdites, regardant la coupable qui s'était agenouillée devant elle et cachait sa tête sur les genoux de l'une puis de l'autre, gémissait, sanglotait, implorait le pardon et la sympathie sans obtenir de réponse, baisait humblement les vieilles mains iridées qui se retiraient aussitôt comme si elles répugnaient à se laisser toucher par ses lèvres souillées. 2 fois, à de longs intervalles, tante Esther dit d'une voix étonnée et glaciale « Vous avez menti !» 2 fois, tante Anna reprit avec le même froid « Vous l'avouez, oui, vous osez l'avouer, vous avez menti !» Et c'était tout ce qu'elle pouvait dire. La situation était nouvelle, inattendue, inouïe. Elle ne pouvait pas la comprendre, elle ne savait pas comment l'aborder. L'horreur les paralysait. Finalement, il fut décidé que l'enfant égaré devait être mené vers sa mère, qui était malade, mais qui devait néanmoins être mise au courant de la situation. Hélène supplia, implora pour que cette nouvelle disgrâce lui fût épargnée et qu'il lui fût permis de ne pas infliger aussi à sa mère la peine et la douleur que cet aveu lui causerait. Mais ce fut en vain. Le devoir exigeait ce sacrifice, et le devoir doit passer avant toute autre chose. Rien ne peut vous absoudre d'un devoir. En face d'un devoir, aucun accommodement, aucun compromis n'est possible. Hélène supplia encore, disant qu'elle était entièrement responsable du péché commis, elle et elle seule, que sa mère n'y avait en aucune façon pris part. Et alors pourquoi donc devrait-on l'en faire souffrir? Mais les tantes demeurèrent fermes et inébranlables dans leur sentiment de justice. La loi, qui punissait l'iniquité des parents sur les enfants, devait en tout droit et en toute raison pouvoir être interverti. Par conséquent, il n'était que juste que la mère innocente d'une enfant pécheresse subit le sabbat une douleur, une honte, une peine, salaires inévitables du péché. Les trois femmes s'en allèrent vers la chambre de la malade. À ce moment, le docteur approchait de la maison. Oudon était encore à une bonne distance cependant. C'était un bon docteur et un bon cœur. Un homme excellent, mais il fallait l'avoir connu un an pour ne plus le détester. 2 ans pour apprendre à le tolérer et 4 ou 5 ans pour apprendre à l'aimer. C'était là une longue et pénible éducation, mais qui en valait bien la peine. Il était de grande et forte stature. Il avait une tête de lion, un visage de lion, une voix rude et des yeux qui étaient tantôt des yeux de pirate, tantôt des yeux de femme, selon son humeur. Il n'avait aucune notion de l'étiquette et ne s'en souciait pas. En parole, en manière, en démarche et en conduite, il était le contraire d'un poseur. Il était franc jusqu'aux dernières limites. Il avait des opinions sur tous les sujets. Elles étaient toujours visées, notées et prêtes à être livrées. Que son interlocuteur les apprécia ou non, il ne s'en souciait pas le moins du monde. Ce qu'il aimait, il les aimait très fort, mais ce qu'il n'aimait pas, il les détestait et le criait sur les toits. Dans sa jeunesse, il avait été marin, et l'air salin de toutes les mers semblait émaner encore de toute sa personne. C'était un chrétien, ferme et loyal, persuadé que son pays n'en connaît pas de meilleur, pas un seul dont la foi fût si parfaitement saine, robuste, rempli de bon sens, sans tache ni point faible. Les gens qui avaient une dent à se faire arracher ou qui, pour une raison ou pour une autre, voulaient le prendre par son bon côté, l'appelaient le chrétien, mot dont la délicate flatterie sonnait comme musique à son oreille et dont le C majuscule était pour lui une chose si claire et enchanteresse qu'il pouvait le voir même dans l'obscurité lorsqu'il tombait des lèvres d'une personne. Beaucoup de ceux qu'il aimait le plus se mirent, malgré leur conscience, à l'appeler ouvertement par ce grand titre, parce qu'il leur était une joie de faire quelque chose qui lui plût. Et avec une vive et cordiale malice, sa large et diligente troupe d'ennemis reprirent ce titre pour le dorer, l'enjoliver, et l'augmenter en disant « le seul chrétien ». De ces deux titres, le dernier était le plus répandu. L'ennemi, qui était en grande majorité, veillait à cela. Tout ce que le docteur croyait, il le croyait de tout son cœur. Il se battait chaque fois qu'il en trouvait l'occasion pour défendre sa croyance. Et si les intervalles entre ces occasions cela se trouvaient trop longs, il inventait lui-même des moyens de les raccourcir. Il était sévèrement consciencieux, mais d'une façon conforme à ses vues, plutôt indépendante, et tout ce qui lui paraissait être son devoir, il l'accomplissait carrément, que le jugement des moralistes professionnels plût ou non s'accordait avec le sien. À la mer, dans ses jeunes années, son langage avait été d'une liberté très profane, mais dès qu'il fut converti et se fit une règle à laquelle il se conforma strictement par la suite, de ne jamais jurer que dans les plus rares occasions et seulement quand le devoir le lui commanderait. Il avait été grand buveur en mer, mais après sa conversion, il devint un abstinent ferme et convaincu afin de donner le bon exemple aux jeunes. Et à partir de ce moment, il ne but que rarement. Jamais, en fait, que lorsqu'il se trouvait qu'un devoir l'y obligeait. Cette condition ne se trouvait peut-être remplie qu'une ou deux fois par an, 3 ou 4 ou plus, mais jamais 5 fois. Nécessairement, un tel homme doit être impressionnable, prompt, décidé et facile à émouvoir. C'était le cas pour celui-ci, et il n'avait jamais eu le don de dissimuler ses sentiments. Ou, s'il l'avait eu, il ne prenait pas la peine de l'exercer. Il portait écrit sur sa figure l'état atmosphérique et le temps qu'il faisait dans son âme, et lorsqu'il entrait dans une chambre, les ombrelles ou les parapluies s'ouvraient au sens figuré, suivant ses indications. Quand une douce lumière brillait dans ses yeux, c'était comme une bénédiction. Lorsqu'il entrait les sourcils froncés, oh, la température s'abaissait immédiatement de 10 degrés. C'était un homme très estimé, très aimé parmi ses nombreux amis, mais quelquefois, il leur imposait une grande crainte. Il avait une profonde affection pour la famille Lester, et chacun de ses membres lui rendait avec intérêt ce sentiment. Les trois femmes s'affligeaient de son genre de piété, et ils se moquaient franchement du leur. Mais ils s'estimèrent réciproquement beaucoup. Il approchait de la maison. On aurait pu le voir venir de loin, mais les deux tantes et l'enfant coupable allaient vers la chambre de la malade. Elles se rangèrent près du lit. Les tantes, raides et austères, la pécheresse sanglotant doucement. La mère tourna la tête sur son oreiller. Ses yeux abattus brillèrent vivement d'une flamme de sympathie et d'une passion d'amour maternel dès qu'elle vit son enfant et lui ouvrit le refuge et l'asile de ses deux bras. « Attendez, » dit Tante Anna d'une voix solennelle, « dites tout à votre mère. Purgez votre âme, n'omettez aucune partie de votre confession. » Debout, pâle et malheureuse devant ses juges, la jeune fille raconta jusqu'au bout, en gémissant, sa triste petite histoire. Puis, dans un élan de supplication passionnée, elle s'écria, « Oh, maman, ne pourrez-vous pas me pardonner? Ne voulez-vous pas me pardonner? Je suis si malheureuse. Mais te pardonner, ma chérie, oh, viens dans mes bras. Là, repose ta tête sur mon épaule et sois tranquille. Et quand bien même tu aurais dit un millier de mensonges. » Il y eut un léger bruit, comme un avertissement. On aurait dit un gosier qui s'éclaircit. Les tantes levèrent la tête et restèrent médusées. Le docteur était là, le front chargé du nuage et d'éclairs orageux. La mère et l'enfant ignoraient sa présence. Elles se tenaient pressées l'une contre l'autre, cœur contre cœur, dans un bonheur infini, indifférente à tout le reste. Le médecin resta un beau moment, regardé d'un air sombre la scène qui se passait sous ses yeux. Il l'étudiait, l'analysait, en cherchait la genèse. Puis il leva la main et fit signe aux tantes. Elles vinrent à lui en tremblant, et se tenant humblement devant lui, elles attendirent. Il s'inclina vers elles et dit tout bas, « Je vous avais pourtant dit qu'il fallait éviter la moindre émotion à cette malade, n'est-ce pas? Mais que diable avez-vous fait là? Où êtes-vous? De par ici, ôtez-vous !» Elles obéirent. Une demi-heure après, il vint au salon. Gai, souriant, jovial, il conduisait Hélène et la tenait par la taille, la caressant et lui disant mille petites choses gentilles et drôles. Et elle aussi était redevenue un joyeux rayon de soleil. « Allons, dit-il, adieu, ma chère petite, va-t'en dans ta chambre, laisse ta mère tranquille et sois sage. Mais attends, tire la langue, bon, là, ça va. Mais tu te portes comme le pont neuf. » Il lui donna une petite tape sur la joue et ajouta, « Allez, va vite, sauve-toi. Je veux parler à tes tantes. » Elle sortit. Aussitôt, le visage du docteur se rembrunit. Et il dit en s'asseyant, « Oh, vous avez fait un joli coup, et peut-être aussi avez-vous fait quelque bien. Quelque bien, oui, au fait. » La maladie de Madame Lester, c'est la fièvre typhoïde. Vous l'avez amené à se déclarer, je crois, par vos folies. C'est un service que vous m'avez rendu, après tout. Je n'avais pas encore pu me rendre compte de ce que c'était. Comme émues par un ressort, les vieilles tantes se levèrent ensemble, frissonnantes de terreur. « Asseyez-vous, continua le docteur. Que voudriez-vous faire ?»« Mais ce que nous voulons faire, nous devons aller vite la voir, nous... » Mais vous n'en ferez rien du tout. Vous avez fait assez de mal pour aujourd'hui. Voulez-vous donc épuiser d'un seul coup tout votre stock de crimes et de folies? Allez, asseyez-vous, je vous dis. J'ai fait le nécessaire pour qu'elle dorme. Elle en a besoin. Si vous la dérangez sans mes ordres, je vous scalperai, si toutefois vous avez les instruments nécessaires pour cela. Elle s'assire, désolée et indignée, mais obéissante par force. Il continua. « Maintenant, je veux que la situation me soit expliquée. » Elle voulait me l'expliquer, comme si elle n'avait pas déjà bien assez d'émotion et d'excitation. « Vous connaissiez mes ordres. Comment avez-vous osé entrer dans cette chambre et faire tout ce bruit ?» Esther jeta un regard suppliant à Anna. Anna répondit par un regard suppliant à Esther. Ni l'une ni l'autre ne voulait danser sur cet air-là. Le docteur vint à leur secours et il dit « Commencez, Esther !» Tortillant les franges de son châle, Esther dit timidement, les yeux baissés « Mais nous n'aurions jamais désobéi à vos ordres pour une raison ordinaire, mais celle-ci était de première importance. C'était un devoir, et devant un devoir, on n'a pas le choix. Il faut mettre de côté toute considération de moindre importance et l'accomplir. Nous avons été obligés de la faire comparaître devant sa mère. Elle avait dit un mensonge. » Le docteur dévisagea un instant la vieille demoiselle et parut essayer d'amener son esprit à saisir un fait tout à fait incompréhensible. Puis il tonna. « Elle a dit un mensonge. Ah, vraiment, le diable m'emporte. Mais j'en dis 1 million par jour, moi. Et tous les docteurs en font autant. Et tout le monde en fait autant. Même vous, pour ce qui est de ça. Mais c'était ça, la chose importante qui vous autorisait à désobéir à mes ordres et mettre en péril la vie de ma malade. Voyons, Esther Gray, voilà qui est pure folie. Cette fille ne pourrait pas faire volontairement du mal à qui que ce soit. La chose est impossible, absolument impossible. Vous le savez vous-même. Mais toutes les deux, vous le savez très bien. » Anne vint au secours de sa sœur. « Mais Esther ne voulait pas dire que ce fut un mensonge de cette espèce-là. Non, mais c'était un mensonge. »« Oh, eh bien, ma parole, je n'ai jamais entendu de pareilles bêtises. N'avez-vous pas assez de sens commun pour faire des distinctions entre les mensonges ? Savez-vous pas la différence entre un mensonge qui fait du bien et un mensonge qui fait du mal ?»« Tous les mensonges sont condamnables, » dit Anna, en pinçant ses lèvres comme un étau. « Tous les mensonges sont défendus. » Le seul chrétien s'agita impatiemment dans sa chaise. Il voulait attaquer cette proposition, mais ne savait pas au juste comment ni par où s'y prendre. Finalement, il se risqua. « Esther, ne diriez-vous pas un mensonge pour protéger quelqu'un d'un mal ou d'une honte imméritée ?»« Oh non. » Pas même pour sauver un ami ? Non. Pas même pour le meilleur ami ? Non, je ne mentirai pas. » Le docteur lutta un instant en silence contre cette situation. Puis il demanda : Pas même pour lui épargner des souffrances, des misères et des douleurs très grandes ? Non, mais pas même pour sauver sa vie ? Une autre pause. Puis, ni son âme ? Il y eut un silence. Un silence qui dura un instant. Puis Esther répondit à voix basse, mais avec décision : ni son âme. D'un moment, personne ne parla. Puis le docteur dit : En est-il de même pour vous, Anna ?
Oui, répondit-elle.
Mais je vous le demande à toutes les deux, pourquoi ?
Parce que dire un mensonge, ou n'importe quel mensonge, serait un péché et nous coûterait la perte de nos propres âmes. Oui, nous serions perdus si nous mourions avant d'avoir eu le temps de nous repentir.
Étrange, étrange. Oh, c'est absolument incroyable.
Puis il demanda brusquement, « Mais une âme de cette espèce vaut-elle la peine d'être sauvée ?» Il se leva en maugréant et marmottant, et se dirigea vers la porte en frappant vigoureusement des pieds. Sur le seuil, il se retourna et cria de toute sa voix,
« Corrigez-vous, abandonnez cette étroite, égoïste, mesquine idée de sauver vos misérables petites âmes, et tâchez de faire quelque chose qui ait un peu de dignité. Risquez vos âmes, risquez-les pour de nobles causes. Et alors, quand bien même vous les perdriez, que craindriez-vous ? Corrigez-vous !»
Les bonnes vieilles demoiselles se sentirent paralysées, pulvérisées, indignées et insultées. Elles réfléchirent profondément et amèrement à ces blasphèmes. Elles étaient blessées à vif et disaient qu'elles ne pourraient jamais pardonner ces injures.
« Corrigez-vous !»
Elles se répétaient ce monde dans l'amertume de leur âme. « Corrigez-vous et apprenez à mentir !» Le temps s'écoula et bientôt un changement se fit dans leur esprit. Elles avaient accompli le premier devoir de l'être humain, qui est de penser à lui-même jusqu'à ce qu'il ait épuisé le sujet, et elles se trouvèrent alors en état de considérer des choses d'un intérêt moindre. Il leur fut possible de penser aux autres. Et les pensées des deux vieilles demoiselles s'en retournèrent donc bien vite à leur chère nièce et à l'affreuse maladie qui l'avait frappée. Aussitôt, elles oublièrent les blessures qu'avait reçues leur amour-propre, et il s'éleva dans leur cœur un désir passionné d'aller au secours de celle qui souffrait, de la consoler par leur amour, de l'entourer de soins et de travailler de leur mieux pour elle avec leurs faibles vieilles mains, d'user joyeusement, amoureusement, leur pauvre corps à son service, pourvu que ce privilège leur fût accordé.
« Il nous l'accordera !» s'écria Esther avec de grosses larmes coulant sur ses joues. « Il n'y a pas de garde malade comparable à nous, car il n'y en a pas d'autres qui se réveillaient à ce chevet jusqu'à ce qu'elles en tombent mortes. Et Dieu sait que nous le ferions. »
« Amen !» dit Anna, et un sourire d'approbation brilla à travers les larmes qui bouillaient ses lunettes.
Le docteur nous connaît, il sait que nous ne désobéirons plus. Il n'appellera pas d'autres gardes, il n'oserait pas.
Il n'oserait pas, dit Esther avec colère, essuyant vivement ses yeux.
Il oserait tout, ce chrétien du diable. Mais toute son autorité serait bien inutile cette fois.
Mais bonté divine, Anna, tout bien considéré, cet homme est très bon, intelligent et bien doué. Il n'aurait jamais une telle pensée.
L'heure à laquelle l'une de nous devrait aller le voir, la malade est passée. Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi vient-il pas nous le dire?
Elles entendirent le bruit de ses pas. Il revenait. Il entra, s'assit et se mit à causer.
Marguerite est bien malade, dit-il.
Elle dort encore, mais elle s'éveillera bientôt. Alors l'une de vous devra aller vers elle. Son état doit empirer avant de s'améliorer. Dans quelques jours, il faudra la veiller jour et nuit. Quelle part de ce travail pourrez-vous entreprendre, à vous deux ?
Mais tout ! S'écrièrent ensemble les deux vieilles demoiselles.
Les yeux du docteur étincelèrent, il dit avec enthousiasme.
Oui, vous parlez franc, brave vieille relique que vous êtes. Et vous serez garde-malade autant que vous le pourrez, car il n'y a personne dans cette ville qui vous soit comparable pour cette dure et sainte tâche. Mais vous ne pouvez pas tout faire, et ce serait un crime que de vous le permettre. »
C'était là de belles louanges, des louanges inestimables, venant d'une telle source, et presque toute la rancune disparut aussitôt des cœurs des deux vieilles jumelles. Votre Tilly et ma vieille Mancy feront le reste. Bonne garde toutes les deux. Âme blanche et peau noire, vaillante, fidèle, tendre, de vraies perles. Et menteuse accomplie depuis le berceau. À propos, dites donc, faites attention à votre petite nièce aussi. Elle est malade et va l'être encore plus. Les deux vieilles demoiselles parurent un peu surprises et incrédules. Esther s'écria, « Mais comment donc, il n'y a pas une heure que vous lui avez dit qu'elle se portait comme le pont neuf ?» Le docteur répondit tranquillement, « C'était un mensonge. » Les vieilles filles se retournèrent contre lui avec indignation et Anna s'écria, « Mais comment osez-vous nous faire cette odieuse confession d'un ton si indifférent quand vous savez ce que nous pensons de toutes les formes de... Chut ! Mais vous êtes ignorantes comme des chattes toutes les deux et vous savez pas du tout ce que vous dites. Vous êtes comme toutes les autres taupes morales. Vous mentez du matin au soir, mais parce que vous ne le faites pas avec votre langue, mais seulement avec vos yeux menteurs, vos menteuses inflexions de voix, vos phrases trompeuses et déplacées et vos gestes trompeurs. Vous levez avec arrogance vos nez dédaigneux et infaillibles. Et vous faites parade devant Dieu et devant le monde d'une exemplaire sainteté. Et un mensonge qui parviendrait à se glisser dans la glacière de vos âmes serait aussitôt mortellement congelé. Mais pourquoi tenez-vous à vous leurrer vous-même avec cette idée ridicule qui n'existe que des mensonges parlés ? Mais quelle est la différence entre mentir avec ses yeux et mentir avec sa bouche ? Il n'y en a pas. En réfléchissant un instant, vous le comprendrez. Il n'y a pas un être humain qui ne dise une foule de mensonges chaque jour de sa vie. Et vous, oh, mais vous deux, mais vous en dites 20 000. Et pourtant, vous faites une vive explosion d'horreur hypocrite quand je dis un mensonge très doux et innocent à cet enfant pour la protéger contre son imagination qui s'échaufferait jusqu'à lui donner la fièvre en moins d'une heure si j'étais assez malhonnête envers mon devoir pour le permettre. Et je le permettrais probablement si j'étais intéressé à sauver mon âme par des moyens tellement indignes. Voyons, raisonnons ensemble. Examinons les détails. Quand vous étiez toutes les deux dans la chambre de la malade à faire cette scène, qu'auriez-vous fait si vous aviez su que je venais ? Eh bien quoi ? Mais vous seriez sauvée en emmenant Hélène avec vous, n'est-ce pas ? Les vieilles filles se turent. Et quels auraient été alors votre but et votre intention ? Eh bien, quoi ? Mais de m'empêcher de découvrir cette action ? De me porter à croire que l'excitation de Marguerite provenait d'une cause non connue de vous, ou en un mot, de me dire un mensonge silencieux ? Et ce qui est plus, un mensonge qui aurait pu faire du mal ? Les jumelles rougirent, mais ne parlèrent pas. Non seulement vous dites des milliers de mensonges silencieux, mais vous dites aussi des mensonges en parole, toutes les deux. Non, cela, non, oh non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, mais seulement d'inoffensif. Vous n'auriez jamais rêvé d'en prononcer un qui puisse faire du mal. Mais savez-vous que c'est là une concession, une confession ? Que voulez-vous dire ? Mais c'est une inconsciente concession de dire que les mensonges inoffensifs ne sont pas criminels. Et cela revient aussi à confesser que vous faites constamment cette distinction. Par exemple, vous avez refusé la semaine dernière une invitation de la vieille Madame Foster pour ne pas rencontrer ses odieux Higbys à dîner. Par un billet très poli, vous exprimiez votre regret et disiez que vous étiez très fâché de ne pouvoir accepter. C'était un mensonge. C'était un mensonge le plus complet qui jamais ait été prononcé. Niez-le, Esther, avec un autre mensonge. Esther ne répondit qu'en branlant la tête. Et cela ne suffit pas, continua le docteur. Répondez, était-ce un mensonge, oui ou non ? Les couleurs montèrent aux joues des deux vieilles demoiselles, et avec lutte et effort, elles firent leur confession. Oui, c'était un mensonge. Bien, la réforme commence. Oh, il y a encore de l'espoir pour vous. Vous ne diriez pas un mensonge pour sauver l'âme de votre meilleur ami, mais vous pouvez en dire sans le moindre scrupule pour vous épargner l'ennui de dire une vérité désagréable. Il se leva. Esther, parlant pour toutes deux, dit froidement. Oui, nous avons menti, nous le reconnaissons. Cela ne se renouvellera jamais. Mentir est un péché. Oh, nous ne dirons plus jamais un seul mensonge d'aucune espèce, pas même un mensonge de politesse ou de charité, ni pour épargner à qui que ce soit le coup d'une douleur que Dieu lui envoie. Ah, que votre chute sera prompte. Au fait, vous êtes déjà retombé dans le péché, car ce que vous venez de prononcer est un mensonge. Allez, adieu, corrigez-vous. L'une de vous doit aller maintenant vers la malade. 12 jours après, la mère et l'enfant s'agitaient dans les transes de l'affreuse maladie. Il y avait bien peu d'espoir pour l'une et pour l'autre. Les sœurs étaient pâles et exténuées, mais ne voulaient pas quitter leur poste. Leur cœur se brisait, pauvres chères vieilles, mais leur vaillance était ferme et indestructible. Pendant tous ces 12 jours, la mère avait beaucoup désiré voir son enfant et l'enfant sa mère, mais elle savait bien toutes les deux que leurs prières sur ce point ne pourraient être de bien longtemps exaucées. Lorsque la mère sut dès le premier jour qu'elle était atteinte de la fièvre typhoïde, elle fut effrayée et demanda s'il n'y avait pas de danger qu'Hélène ait pu contracter la maladie la veille en entrant dans sa chambre. Esther lui dit que le docteur s'était moqué de cette idée. Esther était ennuyée de le dire, bien que ce fût vrai, car elle n'avait pas cru aux paroles du docteur, mais quand elle vit la joie de sa mère à cette nouvelle, la douleur de sa conscience perdit beaucoup de sa force. Résultat qui la rendit honteuse du sens trompeur qu'elle avait donné à ses paroles. Mais cette honte n'alla pas jusqu'à l'amener à une consciente et distincte mise au point de ce qu'elle avait dit. Dès lors, la malade comprit que son enfant devait rester loin d'elle et promit de se réconcilier de son mieux à l'idée de cette séparation, car elle eût préféré endurer la mort plutôt que de mettre en péril la santé de sa fille. Cette même après-midi, Hélène dut s'aliter. Elle se sentait malade. Son état empira pendant la nuit. Au matin, sa mère demanda de ses nouvelles. « Elle va bien ?» Esther frissonna. Elle entrouvrit les lèvres, mais les mots refusaient de sortir. La mère la regardait languissamment, rêvant, attendant. Soudain, elle pâlit et s'écria « Oh mon Dieu, qu'y a-t-il ? Elle est malade ?» Alors, le cœur torturé de la pauvre vieille tante fut plein d'épouvante et les mots lui vinrent « Oh non, non, soyez tranquille, elle va bien. » La malade exprima sa reconnaissance et toute la joie de son cœur. « Oh Dieu, sois loué pour ces chères paroles. Embrassez-moi, je vous adore de me les avoir dites. » Esther raconta cet incident à Anna, qui la reçut avec un regard plein de mépris et dit froidement. « Ma sœur, c'était un mensonge. » Les lèvres d'Esther tremblèrent piteusement. Elle étouffa un sanglot et dit « Oh Anna, c'était un péché. » Mais que voulez-vous ? Je n'ai pas pu supporter de voir l'effroi et l'angoisse de ses yeux. N'importe, c'était un mensonge. Dieu vous en tiendra responsable. Oh, je le sais, s'écria Esther en se tordant les mains. Mais s'il fallait recommencer tout de suite, oh, je ne pourrais pas m'en empêcher. Je sais que je le dirais encore. Alors prenez ma place auprès d'Hélène demain matin. Moi, je saurai dire la vérité. Esther se jeta au cou de sa sœur pour l'attendrir et la supplier. Oh non, Anna, oh non, ne le dites pas. Vous la tuerez. Et du moins, j'aurais dit la vérité. Au matin, elle eut une cruelle épreuve. Elle aussi, en présence de la même question de la mère, elle rassembla toutes ses forces pour ne pas faiblir. Lorsqu'elle ressortit de la chambre, Esther l'attendait, pâle et tremblante, dans le vestibule. Elle lui demanda à voix basse. Oh, comment a-t-elle pris l'affreuse nouvelle, cette pauvre, cette malheureuse mère? Les yeux d'Anna étaient pleins de larmes. Elle dit « Dieu me pardonne. J'ai dit que l'enfant se portait bien. » Esther la serra contre son cœur. « Oh Dieu, vous bénisse, Anna, » dit-elle. Et lui exprima tout son amour et sa reconnaissance en caresses et en louanges passionnées. Dès lors, toutes les deux connurent les limites de leurs forces et acceptèrent leur destin. Elles capitulèrent en toute humilité en s'adonnant aux dures nécessités de la situation. Chaque jour, elles prononçaient leurs mensonges du matin et confessaient leurs péchés en prière sans implorer leur pardon, car elles s'en trouveraient indignes, mais avec le seul désir de reconnaître qu'elles se rendaient bien compte de leur faute et n'avaient pas l'intention de la cacher ni de l'excuser. Chaque jour, tandis que la jolie petite idole de la famille souffrait de plus en plus, les vieilles tantes, affligées, peignaient l'épanouissement de sa beauté jeune et fraîche à la faible mère, et frissonnaient de douleur sous les coups que leur portaient ces transports de joie et de gratitude. Pendant les premiers jours, tant que l'enfant eut la force de tenir un crayon, elle avait écrit à sa mère de tant de petits billets doux dans lesquels elle lui cachait sa maladie. Et ces petits billets avaient été lus et relus par des yeux remplis de larmes reconnaissantes, baisés maintes et maintes fois et gardés comme de précieux trésors sous l'oreiller. Puis vint un jour où la main de la jeune fille perdit toute sa force, où elle délira. Ce fut un cruel embarras pour les vieilles tantes. Il n'y avait plus de billets doux pour la mère. Esther commença une explication très plausible et soigneusement étudiée. Mais elle en perdit le fil et son discours ne fut qu'une confusion. Le soupçon se montra sur le visage de la mère, puis la terreur. Esther le vit, reconnut l'imminence du danger et se redressant résolument devant l'urgence de la situation, elle saisit son courage à deux mains, elle se raidit de toutes les forces de sa volonté et elle dit d'un ton calme et pleine de conviction « Je ne voulais pas vous le dire, de peur de vous inquiéter, mais Hélène a passé la nuit chez les Sloanes. Il y avait une petite soirée, elle ne voulait pas y aller parce que vous êtes malade, mais nous l'avons persuadée. Elle est jeune et elle a besoin des plaisirs innocents de la jeunesse, et nous avons pensé que vous nous approuveriez. Soyez sûr qu'elle écrira tout de suite en rentrant. Comme vous êtes bonne et que vous nous comblez de soins toutes les deux, si j'approuve, mais je vous remercie de tout mon cœur. Ma pauvre petite exilée, dites-lui que je veux qu'elle ait tous les plaisirs possibles. Je ne voudrais pas la priver d'un seul. Qu'elle garde seulement sa santé, c'est tout ce que je demande. Qu'elle ne souffre pas. Je ne peux pas en supporter l'idée. Que je suis heureuse et reconnaissante qu'elle ait échappé à cette contagion. Et elle l'a échappé belle, tante Esther. Si ce délicieux visage devait être tout flétri et brûlant de fièvre, je ne peux pas y penser. Gardez-lui sa santé, gardez-lui sa fraîcheur. Je la vois d'ici, cette délicate et ravissante enfant, avec ses grands yeux bleus, si francs et sérieux, et qu'elle est douce, aussi douce et gentille et affectueuse. Est-elle toujours aussi belle, chère tante Esther ? Oh, elle est plus belle, plus douce et charmante qu'elle ne l'a jamais été, si une telle chose peut s'imaginer. Et Esther se retourna pour ranger les flacons de drogue afin de cacher sa honte et sa douleur. Le lendemain, les deux tantes se virent à une tâche difficile et délicate dans la chambre d'Hélène. Patiemment et sérieusement, avec leurs vieux doigts raidis, elles essayèrent d'écrire une contrefaçon du billet promis. Elles ne réussirent pas du premier coup, mais petit à petit, après plusieurs échecs, elles firent des progrès. Nul n'était là pour observer le tragique de tout cela et de cette pathétique ironie du sort, elles étaient elles-mêmes inconscientes. Souvent leurs larmes tombaient sur les billets et les abîmaient. Quelquefois, un seul mot mal formé rendait suspecte une lettre qui aurait pu passer. Mais finalement, Anna en produisit une dont l'écriture était une assez bonne imitation de celle d'Hélène pour passer même sous un regard soupçonneux. Elle l'avait enrichie abondamment de tous les petits mots caressants et les petits mots d'amitié familiers aux lèvres de l'enfant depuis son berceau. Elle porta cette lettre à la mère, qui s'en saisit avec avidité, l'embrassa, la pressa contre son cœur, lisant et relisant tous les mots charmants, répétant avec un amour infini le dernier paragraphe. « Minette chérie, si je pouvais seulement vous voir et embrasser vos yeux et sentir vos bras autour de moi, je suis si contente que mes exercices de piano ne vous dérangent pas. Guérissez-vous vite. Tout le monde est bien bon pour moi, mais je me trouve tellement seule sans vous, chère maman. La pauvre petite, je comprends tout à fait ses sentiments. Elle ne peut jamais être complètement heureuse sans moi. Et moi, je vis de la lumière de ses yeux. Dites-lui de s'exercer tant qu'il lui plaira, tante Anna. Je ne peux pas entendre le piano de si loin, ni sa chère jolie voix quand elle chante. Dieu sait que je le voudrais bien. Personne ne sait comme cette voix est douce à mon oreille, et dire qu'un jour, elle ne chantera plus. Mais pourquoi pleurez-vous ? Oh, seulement parce que ce n'était qu'un souvenir. Lorsque je suis descendu, elle chantait l'orphomone, cette mélodique, mélancolique berceuse. Je suis toujours ému lorsqu'elle chante cela. Oh, et moi aussi, c'est d'une beauté touchante, divine. Lorsque quelque chagrin de jeune fille est dans son cœur et qu'elle chante pour la consolation mystique que lui donne la musique. Tante Anna, chère Marguerite, je suis très malade. Quelquefois, il me vient comme un pressentiment que je n'entendrai plus jamais cette chère voix. Oh non, non, ne dites pas cela, Marguerite. Je ne peux pas le supporter. Marguerite fut touchée, désolée, elle dit doucement. Là, là, laissez-moi vous prendre dans mes bras, ne pleurez pas. Mettez votre joue près de la mienne. Consolez-vous, non, je veux vivre, je vivrai si je peux. Ah, mais que ferait-elle sans moi? Est-ce qu'elle parle souvent de moi? Mais je sais bien que oui. Oh oui, constamment, constamment. Ma chère petite fille, elle a écrit son billet tout de suite en entrant? Oui, à l'instant même, elle n'a pas même attendu d'avoir quitté son chapeau. Oh, je le savais bien. C'est bien sa manière affectueuse, tendre et impulsive. Je le savais sans le demander, mais je voulais vous l'entendre dire. La femme adorée le sait, mais elle voudrait que son mari lui redise son amour chaque jour, à tout moment, pour la seule joie de l'entendre. Elle a pris une plume cette fois, j'aime mieux ça. L'écriture au crayon pouvait s'effacer, j'en aurais été navré. Lui avez-vous dit de prendre une plume? Oui, non, 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 c'est elle. Non, c'est elle qui en a eu l'idée. La mère sourit et dit, j'espérais que vous diriez cela. Je n'ai jamais vu une enfant si aimable et si prévenante. Tante Anna, chère Marguerite, allez lui dire que je pense continuellement à elle et que je l'adore. Mais vous pleurez encore, ne vous inquiétez pas tellement de moi, ma chérie. Je crois qu'il n'y a rien à craindre pour le moment. » La messagère, désolée, porta ces paroles et les délivra pieusement à des oreilles inconscientes. La jeune fille continua à gémir et à marmotter. Puis elle la regarda avec de grands yeux étonnés, effrayés et brillants de fièvre, des yeux où il ne restait plus un rayon d'intelligence. « Êtes-vous ? Oh non, non, vous n'êtes pas ma mère. Je la veux. Elle était là, il n'y a qu'un instant. Je ne l'ai pas vue partir. Viendra-t-elle ? Viendra-t-elle vite ? Viendra-t-elle tout de suite ? Il y a tant de maisons. Oh, et elle m'étouffe tellement. Et ça tourne, ça tourne. Oh, ma tête, ma tête !» Et ainsi de suite, elle s'agitait, se tourmentait sans cesse dans des transes de douleur, passant d'une idée torturante à une autre, jetant ses bras de tous côtés comme sous la menace d'une incessante persécution. La pauvre vieille Anna mouillait les lèvres sèches et fiévreuses, caressant doucement le front brûlant, murmurait des mots de tendresse et de pitié, et remerciait le père de tous, de ce que la mère était heureuse et ne savait pas. Chaque jour, la jeune fille s'en allait de plus en plus vers la tombe, et chaque jour, les tristes vieilles gardiennes portaient de fraîches nouvelles de sa santé radieuse et florissante à l'heureuse mère, dont la vie touchait aussi à sa fin. Et chaque jour, elles imaginaient des petits billets tendres et joyeux, imitant l'écriture de l'enfant. Puis, le cœur déchiré, la conscience pleine de remords, elles pleuraient en regardant la mère joyeuse et reconnaissante, qui les dévorait, les adorait, les chérissait comme d'inestimables trésors, et les jugeait sacrés parce que la main de l'enfant les avait touchés. Enfin, elle vint, l'ami, qui apporte à tous la suprême consolation et la paix. Les lumières éclairaient faiblement l'appartement. Dans le silence complet et solennel qui précède l'aurore, des formes vagues glissèrent sans bruit le long du corridor et s'assemblèrent, silencieuses et recueillies, dans la chambre d'Hélène, autour de son lit, car l'avertissement avait été donné et elle comprenait. La jeune mourante avait les lèvres closes, elle était sans connaissance. L'étoffe qui recouvrait sa poitrine se soulevait et s'abaissait, tandis que s'écoulaient petit à petit les derniers souffles de la vie. De temps en temps, un soupir ou un sanglot étouffé rompait le silence. La même pensée et le même sentiment étaient dans tous les cœurs. L'angoisse de cette mort, ce départ pour le grand inconnu, et la mère qui n'était pas là pour aider, encourager et bénir. Hélène remua. Ses bras s'étendirent désespérément comme s'ils cherchaient quelque chose. Elle était aveugle depuis plusieurs heures. La fin était venue. Tout le monde le savait. Avec un grand sanglot, Esther la prit dans ses bras en s'écriant « Oh, mon enfant chéri !» Une lueur d'extase et de bonheur suprême illumina la figure de l'enfant, car il lui fut miséricordieusement permis de croire que ce dernier embrassement était d'une autre. Et elle s'en alla paisiblement en murmurant « Oh maman, je suis si heureuse, j'avais tant besoin de vous. Maintenant, je puis mourir. » 2 heures après, Esther était devant la mère qui lui demandait « Comment va l'enfant ?»« Elle va bien, » dit la vieille fille. Un voile de crêpe noir et un voile de crêpe blanc furent pendus à la porte de la maison. Et le vent les fit balancer et frissonner ensemble. À midi, les préparatifs d'enterrement étaient finis et dans le cercueil reposait le jeune corps dont le visage exprimait une grande paix. Deux affligés étaient assis tout près, pleurant et priant, Anna et la vieille négresse Tilly. Esther vint et elle tremblait, car un grand trouble était dans son âme. Elle dit, elle demande un billet. Le visage d'Anna devint blême. Elle n'avait pas pensé à cela. Elle avait cru que ses pathétiques services étaient terminés. Pendant un instant, les deux femmes se regardèrent fixement, les yeux vides. Puis Anna dit, oh, il n'y a rien à faire. Il faut qu'elle l'ait, autrement elle soupçonnerait quelque chose. Oui, elle découvrirait tout. Oui, et son cœur se briserait. Elle regarda le pâle visage de la morte, et ses yeux se remplirent de larmes. « Je l'écrirai, » dit-elle. Esther le porta. La dernière ligne disait, « Minette, chérie, ma douce et gentille maman, bientôt nous nous reverrons. N'est-ce pas là une bonne nouvelle ? Et c'est bien vrai. Tout le monde dit que c'est vrai. » La mère gémit et dit, « Pauvre enfant, comment pourra-t-elle supporter le savoir ? Je ne la verrai plus jamais en ce monde. C'est dur, bien, bien dur. Elle ne soupçonne rien pour la préserver de cela. Oui, elle croit que vous serez bientôt guérie. Comme vous êtes bonne et attentive, chère tante Esther, personne ne l'approche qui pourrait lui porter la contagion. Non, ce serait un crime. » Mais vous, la voyez à distance, oui, c'est très bien. En d'autres personnes, on pourrait avoir confiance, mais vous deux, anges gardiennes, l'or n'est pas si pur que vous. D'autres seraient infidèles et beaucoup me tromperaient et mentiraient. Esther baissa les yeux et ses pauvres vieilles lèvres tremblèrent. Oh, laissez-moi vous embrasser pour elle, tante Esther. Et quand je serai parti et que tout danger sera passé, mettez ce baiser un jour sur ses chères lèvres et dites-lui que c'est sa mère qui l'envoie et que le cœur brisé de sa mère y est tout entier. L'instant d'après, Esther, versant des larmes sur le visage pâle et froid, accomplit sa tragique mission. Une autre journée se leva et s'avança en inondant la terre de rayons de soleil. Tante Anna apporta à la mère défaillante des nouvelles pleines de consolation et un joyeux billet qui disait encore « Nous n'avons plus que très peu de temps à attendre, maman chérie, puisque nous serons ensemble. » La note grave et profonde de la cloche s'entendit au loin comme une plainte apportée par le vent. « Tante Anna, on sonne. Ah, quelque pauvre âme est au repos. J'y serai bientôt aussi. Vous ne la laisserez pas m'oublier. Oh, Dieu sait qu'elle ne vous oubliera jamais. N'entendez-vous pas ce bruit étrange, Tante Anna ? On dirait le son de beaucoup de pas qui rentrent. Ben, nous espérions que vous ne l'entendriez pas, chérie. C'est un petit rassemblement d'amis venu pour Hélène, pour petite prisonnière. Il y aura de la musique, elle l'aime tellement. Nous pensions que cela ne vous inquiéterait pas. M'inquiéter, oh non, non. Oh, donnez-lui tout ce que son cher petit cœur peut désirer. Vous êtes toujours si bonne pour elle et si bonne pour moi. Dieu vous bénisse toutes les deux, toujours. Après une pause, elle ajouta, « Oh, comme c'est beau! J'entends son orgue. Est-ce elle qui joue, croyez-vous ?» En vagues limpides et sonores, la musique inspiratrice flotta dans l'air tranquille jusqu'à ses oreilles. « Oui, c'est son jeu, ma petite chérie. Oh, je le reconnais, on chante. Oh, c'est un cantique, et le plus beau, le plus sacré de tous, le plus touchant, le plus consolant. » « Il me semble que cette musique va m'ouvrir les portes du paradis. Oh, si je pouvais mourir maintenant !» Vagues et lointaines, Ses paroles s'élevèrent dans le silence profond. Nearer, my God, to thee, nearer to thee. And in thoughts this big cross that traces me. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Qu'importe que ce soit une croix qui m'élève plus près de toi. Avec la fin du cantique, une autre âme s'enfuit vers le lieu du repos éternel, et celles qui avaient été tellement unies dans la vie ne furent pas séparées par la mort. Les vieilles sœurs pleuraient amèrement, mais elles se disaient avec joie, « Quelle bénédiction, qu'elle ne l'ait jamais su !» À minuit, elles se tenaient ensemble et pleuraient encore, quand elles crurent voir un ange qui leur apparaissait dans une lumière céleste. Et l'ange leur dit, « Pour les menteurs, une place est assignée. Ils brûlent dans le feu de l'enfer durant l'éternité. Repentez-vous. » Les affligés tombèrent à genoux aux pieds de l'ange et inclinèrent leur tête grise en adoration. Mais leur langue était attachée au palais de leur bouche et elles se turent. « Parlez, reprit l'ange, pour que je puisse porter la réponse devant le tribunal divin et vous rapporter le décret inévitable et décisif. » Elles inclinèrent la tête plus bas encore et l'une dit « Notre péché est grand et nous nous humilions dans la honte, mais seule une repentance parfaite pourrait nous sauver. Et nous sommes de pauvres créatures qui avons appris l'infini de la faiblesse humaine, et nous savons que si nous nous retrouvions encore dans de si dures circonstances, nos cœurs faibliraient de nouveau et nous pécherions autant qu'auparavant. Les forts pourraient résister et ainsi être sauvés, mais nous, nous sommes perdus. » Elles levèrent la tête pour supplier, mais l'ange était parti. Pendant qu'elles s'étonnaient et pleuraient, l'ange revint et, s'abaissant vers elles, il leur dit tout bas le décret. Était-ce enfer ou paradis ?